L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Je crois que nous allons bien nous entendre, toutes les deux.
Oui, moi aussi, je le crois.
Elles sortent toutes les deux. Florence se dit qu'elles ont le même caractère toutes les deux. Elle va être bien surveillée. Félicie a ouvert la porte de la chambre des Monts et a fait entrer.
Elle lui dit « Voilà la chambre de mon pauvre Edmond. Cela ne vous ennuie pas qu'il est mort ici.
Non, je crois en Dieu. Il a dû monter au ciel, le pauvre cher homme.
Oui, bien sûr, surtout après avoir vécu avec une femme pareille. Vous vous rendez compte que dans un moment de démence, elle a tué un chat.
Oh, mon Dieu! Et pourquoi ne l'avez-vous pas mise dans une maison?
Parce que mon fils est trop bon. Et la peur du scandale.
La vieille regarde la pièce et dit
« Elle est très bien.
J'ai fait changer les draps. Mais j'ai lavé les autres. Ils étaient encore bons. »
Isabelle le dit.
Vous avez raison, il ne faut pas perdre ce qui est bon. Et puis, ce n'était pas les draps qui n'étaient plus bons, mais...
Oui, hélas, mon pauvre Edmond, il n'était plus bon à rien. Et c'est pour ça qu'on a brûlé son corps.
Vous avez bien fait, moi aussi je brûle toutes les vieilles choses qui ne servent à rien. Après... C'est mieux. À quoi bon s'encombrer de choses inutiles ?
Félicie dit. Mais quelquefois, on est bien obligé, n'est-ce pas ?
L'autre lui dit.
A-t-elle réellement tué le chat ?
Oui, à coup de hache.
Oh ! Ça me donne froid dans le dos. Je ferai attention.
Marie,
je le plains. Elle l'a achevé, lui aussi?
Oui, mais pas avec une hache. Ça aurait été trop salissant.
Et comment s'y est-elle prise?
Elle le soignait.
Si c'est ça, c'est une bonne idée. Des tas de mes amies gouvernantes ont agi comme ça et en même temps on leur donne de la responsabilité.
Vous n'avez pas le projet?
Non, et puis vous m'avez embauché pour surveiller, n'est-ce pas?
Oui, ma chère.
Je peux amener mes affaires quand?
Le plus vite que vous pouvez.
Bien, demain alors, et pour les repas.
Vous êtes nourris aussi.
Mais je les prends où?
Je sais pas.
C'est-à-dire que je ne les prends jamais à la table des maîtres, des domestiques. Toujours à la table des maîtres.
Je ne suis pas une domestique. Et ici, il dit.
Ah, bien sûr. Alors... Nous ferons pour le mieux.
Le soir, pendant le dîner, qu'elle prend avec Armand, elle dit. Armand lui dit,
j'espère qu'elle est agréable si elle prend les repas avec nous.
Félicie lui dit,
elle est tout à fait respectable. Mais c'est une jeune fille. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Le lendemain après-midi, Isabelle va aménager. Elle a apporté quelques valises. Félicie l'aide avec une bonne.
Une fois que la chose est faite, elle veut prendre le thé avec Florence au salon.
Isabelle dit à la bonne,
un thé léger pour madame.
Florence lui dit, mais je prends du thé pur. Je ne crois pas que ça me fasse mal.
Madame, je suis responsable de vous maintenant. Et je sais ce qui est bon pour vous. Laissez-vous en faire. Et vous vous en trouviez de très bien. Après avoir pris votre thé, vous irez vous allonger.
Le soir, lorsqu'Amand entre chez lui, il demande
« Où est cette jeune fille ?»
Il entre dans le salon et retrouve sa mère et Florence.
« Bonjour. Où est la jeune fille ?»«
Elle ne veut pas tarder à venir. » »«
J'ai hâte de voir cette perle rare. »
Elle lui dit
« Ah, pour ça, c'est une perle rare. Si tu savais comme elle est bien. »
On a frappé à la porte. Félicie dit
« Entrez !»
Entre Isabelle, tout sourire.
Félicie dit « Voilà Isabelle. Isabelle, voilà mon fils, le mari de Flore. » Le père de Florence.
Monsieur.
Mademoiselle,
le mari est très déçu de cette chose. Félicie dit,
j'espère que nous allons bien nous entendre.
Dans la soirée, Armand dit à sa mère,
je croyais que c'était une jeune fille.
Sa mère lui dit, mais c'en est une. Il faudra bien te tenir avec elle, n'est-ce pas?
Pour ça, on ne risque pas de mal se tenir près d'elle.
Florence n'est pas contente du tout. Elle va être encore plus surveillée. Isabelle a des manies. Et ils s'en sont tout de suite rendus compte. Pour dîner, il y a de la purée et de la viande.
Faites un trou au milieu de la purée et vous le remplissez de jus de viande.
Tous se regardent surpris et exécutent ce qu'elle a dit. Parce qu'elle se lève de table pour voir ce que l'on fait. Armand se dit,
heureusement qu'on n'a pas d'invité à table.
Et la vie commence avec Isabelle. Dès le matin, elle s'occupe de Florence. Entre à 8h dans sa chambre pour l'aider à se préparer. Lui dit ce qu'il faut mettre. Lui donne, bien entendu, ses médicaments. Et la pauvre Florence, malgré elle, se sent dans le cirage. Cela l'agace. Après le petit déjeuner qu'elle prend avec elle, elle est menée au salon pour se reposer. Et toute la journée, l'autre est près d'elle. Florence se sent de plus en plus lasse parce que le bon docteur a doublé la dose. Il a dit,
c'est à cause de l'émotion due à la venue de la chère gouvernante.
Florence a beaucoup de peine et de remords à cause de la mort de son mari. Elle finit par se sentir coupable, très coupable. Elle se met à avoir peur d'elle-même. Parce qu'elle ne comprend pas et de plus en plus elle se sent autre. Elle se demande si elle n'a pas une double personnalité. Elle voit des images, même la journée, elle voit des images de lieux. Qui lui sont inconnus, des visages aussi. C'est saluer de plus en plus fréquent qu'elle voit ces images qui lui semblent d'une autre vie. Et ces images lui sont de plus en plus fréquentes et lui semblent de plus en plus réelles et être son vrai, sa vraie vie, plus près de ce qu'elle est ou qu'on veut qu'elle soit. Lorsqu'elle sort de ses rêves éveillés, c'est là qu'elle se demande ce qu'elle fait au milieu de ces gens. Le cauchemar, ce n'est pas le rêve, mais la réalité. Puis depuis quelque temps, les images lui montrent en plus, elle ressent. Et cela lui semble agréable. Le décor semble pittoresque, un peu comme dans un quartier populaire agréable. Les gens semblent être heureux. On lui sourit. Des fois, elle a envie de danser, de rire. Des images de certaines jeunes gens lui rappellent des joies. Elle sent qu'elle a été heureuse avec eux, mais elle ne voit pas de quel bonheur. Lorsqu'il lui arrive de rêver et d'être heureuse, elle a le sourire aux lèvres. Félicie Isabelle la regarde surprise. Isabelle demande :
Que lui arrive-t-il ?
Félicie dit : Elle est devenue une bête. Elle est comme les simples d'esprit. Isabelle lui dit,
on dirait qu'elle rit aux anges.
Félicie lui dit, c'est peut-être qu'elle est appelée par Dieu. Il faudrait l'amener à la messe.
Oui, vous avez tout à fait raison, mon ami.
Et l'on mène à la messe tous les dimanches la pauvre Florence qui demande ce qu'elle fait là.
Mais pourquoi voulez-vous me mener à la messe ?
Isabelle lui dit.
Parce que Dieu vous a souri, ma fille.
Elle se dit qu'elle est complètement folle. Elle se laisse mener à la messe pour pouvoir sortir un peu. Armand lui fait régulièrement signer des chèques et des papiers. Elle demande.
C'est pourquoi ?
Il lui dit.
C'est votre pension, ma chère. Votre maladie me coûte cher. Et puis, il faut fructifier votre fortune. Si vous ne le signez pas, nous allons être obligés de vous mettre dans une maison.
Alors elle signe. D'ailleurs, elle fait tout ce qu'on lui dit de faire. Parce qu'elle a des remords à cause des mots. Félicie dit à son fils, lorsqu'ils sont seuls,
il serait peut-être mieux, c'est de la mettre dans une maison.
Non, il faut la garder près de nous, à cause de sa fortune. Et puis, à sa part, si elle part, nous n'aurons plus besoin d'Isabelle.
Ce serait dommage.
Edmond se demande si sa mère ne serait pas devenue un peu lesbienne.
Il la voit toujours avec Isabelle, qui se font des mamours, des politesses en n'en plus finir. Se traite même de ma chérie. Lorsqu'il les voit ensemble, il se dit qu'elles sont complètement folles. Florence est dans ses rêves. Des fois, ces images lui sont très désagréables et lui font peur. Des cris. Le noir, des cris dans la rue. Et cette chose qui veut l'enserrer. Mais ses rêves désagréables, plutôt ses cauchemars. Elle les voit constamment la nuit. Et lui font très peur. Un après-midi, elle est plus lucide que les autres après-midi, elle se demande
pourquoi est-ce que je vois tout ça et d'une façon très nette. Ce sont toujours les mêmes lieux. S'ils n'étaient pas de moi, de mon histoire, je ne les verrais pas constamment. Autrement, pourquoi est-ce que je les vois constamment et d'une façon si nette? Mon cerveau retrouve la mémoire petit à petit, peut-être. Je vois des choses qui n'ont rien à voir à ce qu'ils m'ont dit, même à ce que m'a dit mon père. Elle aimerait s'y partir pour aller chercher ces lieux, ces rues de Paris. Qu'elle sent qu'elle reconnaîtra. Mais comment y aller? Elle est constamment surveillée. Et puis, elle se sent si faible, si faible. Quitter la propriété lui fait peur. Les jours passent. La famille organise encore une soirée. Isabelle est toute excitée et tape des mains.
Oh, une soirée! Comme ça va être amusant! Il faut que je cherche à m'habiller.
Maman lui dit, mais vous habillerez comme ça? Vous n'êtes qu'une gouvernante.
Elle devient toute pâle. Félicie lui dit,
ne vous faites pas de soucis, ma chérie. Moi aussi, je m'habille simplement.
Isabelle demande, est-ce que madame sera là, elle aussi?
Il lui dit,
bien sûr, on y est obligé. Elle fait partie de la famille. Il ne faut pas que l'on sache qu'elle n'est pas bien. Vous avez bien compris, il ne le faut pas du tout. Parce que si une personne l'apprenait, cela risquerait de nous nuire pour nos affaires. Personne ne voudrait faire affaire avec nous. Tous diront que nous sommes fous. Il faudra qu'elle vienne et soit en forme normale.
Félicie dit,
ce sera difficile. Elle est à moitié dans le cirage et semble dormir.
Il lui dit, eh bien, vous ne lui donnerez que la moitié de ses calmants, des bien assez suffisants. Il faut qu'elle ait l'air normale et non droguée. Vous avez bien compris?
Oui.
Et quelle est l'impression qu'elle fait partie de la famille. Et qu'elle soit bien, bien habillée. Mais faites attention. Elle est têtue. Faudra bien la surveiller pendant la soirée.
Et l'on prépare tout ça. Florence sait qu'il y a une soirée qui se prépare. Elle est contente, ça lui permettra de s'évader un peu. Depuis son veuvage, elle ne parle presque plus. Personne ne s'en est aperçu. Et ça changera qu'elle voie du monde. On l'a trouvé une robe de soirée, toute simple, mais qui lui a à ravir. Elle fait très jeune et ressemble encore à une adolescente. Une fois qu'elle est prête, Isabelle ne peut s'empêcher de lui dire
« Comme vous êtes belle, comme vous êtes belle !»«
Merci. »
Elle aussi se sent très belle. Elles descendent pour aller à la soirée. La soirée a déjà commencé. Son beau-père et sa mère sont déjà avec leurs invités. Lorsqu'elle descend les escaliers accompagnée de sa gouvernante, elle fait sensation.
Tout le monde la trouve très belle.
L'on dit, la pauvre, si jeune et déjà veuve.
Elle ferait un très beau parti.
Paraît qu'elle est inconsolable, pauvre petite. Et elle ne sort jamais.
Quel dommage, une si jolie femme.
Armand va à elle et leur dit.
Oh, vous voilà enfin.
Isabelle lui dit.
Oui, ça a été difficile de choisir un rouge à lèvres discret.
Armand aux épaules lui dit.
Soyez discrète et que l'on croit qu'elle est tout à fait normale. Surveillez-la un peu.
Bien, monsieur.
Et Armand s'éloigne.
Florence a la tête qui lui tourne un peu. Avec tout ce bruit, ces gens qui la regardent, mais elle est heureuse. Et puis, elle se sent bien.
Bien sûr, on lui a diminué ses médicaments. Alors, elle se sent moins dans le cirage.
Armand s'est éloigné pour parler à des messieurs, affaires, toujours affaires, gagner de l'argent, toujours de l'argent.
Florence se faufile dans cette foule où on lui sourit. Une femme grande, maigre, cheveux roses, va à elle. Elle porte une robe noire et lui dit
« J'ai bien connu votre mari, vous savez, c'était un homme charmant. Quel dommage !» Soit il était malade. Il passait ses journées dans les bars.
Oh, merci.
J'aimais bien.
J'en suis sûr.
Vous ne m'en voulez pas si je vous dis que je l'ai connu bien avant vous.
Oh, il faut bien qu'il ait connu des gens avant moi.
Aucunement. Ça vous gêne pas?
Non.
Pourquoi ? L'autre est déçue. Elle voulait la rendre jalouse. Mais c'est elle qui l'est devenue en voyant la beauté de Florence.
Florence a tout de suite compris que l'autre, ce que l'autre voulait. Alors elle dit, « Mon mari n'avait pas beaucoup de goût. Il aimait les gens excentriques. Je veux dire... Et j'ai été sa seule exception, comme vous pouvez le voir.
L'autre se retire furieuse.
Florence se dit qu'elle a retrouvé toutes ses facultés intellectuelles. Elle en est surprise elle-même. Elle se dit, si seulement mes rêves, mes cauchemars pouvaient disparaître, je serais tout à fait bien.
Isabelle la suit de loin, mais
Et elle est attrapée par une femme maigre, tête de cheval, cheveux châtains, robe verte, et dit
« Il me semble vous connaître. »
Isabelle lui dit
« Je ne vois pas. » Il lui dit « Si, la fourvière à la messe de 8 heures, j'étais derrière vous. Vous vous souvenez ?»«
Non. »
Il lui dit « Moi, je vous ai bien remarqué, vous sembliez si pieuse. »« Merci. Vous êtes toujours à Lyon ?»«
Oui. » »«
Et qu'est devenu ce prêtre contestataire ?»
Mais
très original, Monseigneur Yoga ou un nom comme ça. Il est parti. On l'a nommé dans une cité près de Paris, Isabelle lui dit. Je trouvais ses messes très originales. En parka pourri, jean déchiré et t-shirt taché. Il parlait tellement vite qu'on aurait dit qu'il faisait du rap. Et ses enfants de corps en casquette. Et cette personne, ce jeune homme grand, qui nous faisait chanter des Nique ta mère.
Le tout dit,
oui, il était très original, mais ça nous changeait des autres. Mais trop original pour le Vatican. Surtout qu'à la place de l'hostie, il nous donnait du hashish et distribuait des préservatifs à la fin de la messe. Une fois, j'en ai pris un, Isabelle demande. Et qu'est-ce que vous en avez fait?
L'autre, tout rouge, lui dit.
Je l'ai essayé.
Isabelle est toute rouge, l'autre dit.
Toute seule, bien entendu. J'ai réussi à le mettre à mon doigt,
Isabelle demande.
Ça n'a pas été trop difficile. J'ai suivi les instructions. Venez, allons plus loin, dans un coin tranquille. Nous parlerons de tout ça.
Et elle s'éloigne. La gouvernante, comme beaucoup de vieilles filles, est restée très enfant pour certaines choses. Mais la plupart du temps, elle le cache. Florence se trouve seule. Ils se sont éloignés d'elle. Félicie et Armand pense qu'elle est surveillée de près par Isabelle. Mais Isabelle a autre chose en tête. Florence se sent bien. Très bien. Elle va prendre une coupe de champagne du fait et se met dans un coin. Les gens, en passant, la regardent et lui font un petit sourire, mais n'osent pas lui parler parce qu'elle est veuve. Au milieu de la soirée, elle voit un jeune homme dont elle est sûre qu'elle le reconnaît. Elle ne sait pas où elle l'a vu, mais elle le reconnaît. Le jeune homme est grand, mince, cheveux châtains, très clairs, coupé court, le visage fin, mais qui ne manque pas de personnalité. De beaux yeux bleus, petit nez, une bouche juvénile. Son visage est un peu hissé, mais un peu osseux, mais à peine. Le corps très mince. Ses vêtements sont près du corps. Il montre un corps maigre. Il a de grandes mains fines. Est bien faite. Le jeune homme ne fait pas attention à elle. Il parle à une jeune fille qui semble être éblouie par lui. Malgré elle, Florence a un pincement au corps. Elle se demande pourquoi. Serait-elle jalouse? Et pourquoi? Elle ne sait même pas son nom, mais elle a l'impression de le connaître. Elle se dit que ce jeune homme ne peut l'avoir oublié. Enfin, la jeune fille s'éloigne et le jeune homme se trouve seul. Laurent se dit, si je veux savoir qui il est et comment on s'est rencontrés, il faut que j'aille le voir. un peu gênée et hésitante, elle va à lui et se dit que tout le monde doit la voir aller à lui. Que tout le monde doit se demander pourquoi elle va lui parler. Bien gênée, mais il faut bien qu'elle le fasse. Alors, elle y va. Voit près de lui, il ne le regarde pas, il semble réfléchir et lui dit « Bonjour ». Il la voit, lui dit « Bonsoir ». Elle lui demande « Est-ce que je ne vous ai pas déjà vu ?» Il lui dit « Non, je ne vois pas. Vous êtes ?» Elle lui dit « Je suis Florence de Courcelles, veuve de Mercache. » Il lui dit « Je ne vois pas. » Et puis ça ne l'intéresse pas, cette femme qui cherche à le draguer. On lui a fait déjà des centaines de fois. Elle lui demande « Et vous ?» Il lui demande « Quoi ? Vous appelez ?» Il lui dit « Yannick Chapelle. » Elle lui fait « Enchanté. » « Mais votre nom ne me dit rien. » Il lui dit « Vous avez dû vous tromper. » « Je m'en excuse, mais je suis amnésique et je ne me souviens de rien. » Il lui dit « Ce doit être le choc de la perte de votre mari. » « Non, je suis amnésique bien avant mon mariage. C'est à cause d'un accident de voiture. Et depuis, je vis dans le brouillard. Il m'arrive de voir des visages, mais je ne les reconnais pas. Je me souviens de rien. » De ce qu'ils sont. Je m'en excuse. Vous, je croyais que je vous connaissais. Il lui dit, je ne vois pas. Pourtant, j'ai une bonne mémoire. Elle lui dit, pourtant, je vous ai reconnu de suite. Peut-être vous ai-je connu dans une autre vie. Il lui dit, je n'en ai eu qu'une. Et il s'éloigne. Et elle le suit. Elle a un pincement au corps. Chaque fois qu'elle le voit, elle se dit, j'ai sûrement connu. Passe sa soirée à chercher à se souvenir en le suivant. La soirée se termine. Elle, qui était si bien au début de la soirée, à cause de ce jeune homme, se sent mal à l'aise. Et les invités s'en vont. Plus de musique non plus. La maison va être calme. Les invités sont partis, mais elle voit avec surprise que lui reste avec sa belle famille. Tout le monde est parti. Il est toujours là. Elle est comme dans un brouillard. Maman dit, Yannick, reste chez nous, couché. Il habite loin et c'est le fils d'un vieil ami de la famille. Elle ne sait plus, tellement elle est surprise. Yannick ne la connaît pas, mais il connaît sa belle famille, et sa belle famille le connaît. Elle est la seule qui, lui, ne la connaît pas, ne la reconnaît pas. Pourtant, elle est sûre de le connaître. De le connaître très bien. Et même mieux qu'eux. Alors pourquoi ? Pourquoi faut-il que les autres le connaissent ? Pourquoi faut-il partir de cette vie? De cette vie-là? Comment une personne qui était dans son autre vie a pu entrer dans sa vie-là? Et que les autres de cette vie-là le connaissent. Il a fait le lien entre les deux mondes. Elle ne sait plus ce qu'elle vit. Et si elle vit, c'est réel. Et pourquoi lui, dans l'autre vie, la connaissait-il bien? Ici, dans cette vie, il est le seul à ne pas la connaître. Armand voit qu'elle n'est pas bien. Demande. Tu n'es pas bien, Laurence. Tu sembles rêver.
Et il s'est dit.
Ce doit être la fatigue de la soirée.
Allez la coucher.
Moi, je mène mon hôte dans sa chambre. Venez, monsieur.
Elle le prend à l'épaule. Isabelle prend aussi à l'épaule Florence et lui dit
« Venez, ma chérie, allons faire dodo. »
Et Florence se laisse faire. Elle est revenue somnambule.
Une fois dans sa chambre, la gouvernante lève à se coucher et lui dit
« Je ne vous donne pas vos médicaments. Il est trop tard, presque jour. Si je vous les donnais maintenant, vous ne pourriez plus vous réveiller. »
Après avoir pris sa douche, elle la laisse. Florence est dans le brouillard. Elle s'endort. Trou noir. Trou noir. Tout à coup, l'impression qu'elle fait des gestes malgré elle et se réveille d'un coup. Elle est debout, il fait nuit, la lune éclaire la chambre. Et là, elle voit en face d'elle elle se voit, elle, son double, qui est son reflet de la glace de l'armoire. Elle le voit effrayé. Sa chemise de nuit est toute tachée, ses cheveux défaits. Elle voit qu'il y a sur le plancher une masse près de lui. Se soulève et voit ce que c'est. Voit que c'est le corps ensanglanté de Yannick avec un couteau dans la poitrine. Se lève, ne sait que faire. Il se dit, mon Dieu, il faut que je me débarrasse de ça. Et se pose aucune question, ni ne panique,
Non, elle doit se débarrasser de ça.
Je dois cacher le corps avant que les gens se sachent me traitent de folle. Non, je ne veux pas.
Vite, elle réfléchit. Prends un drap qui est taché de sang. Enroule le corps dedans. C'est difficile parce que le corps est lourd et mou. Une fois que le corps est enroulé du drap, elle se dit qu'elle ne pourra pas le porter jusqu'en bas. Que faire? Il faut absolument le faire disparaître dans cette chambre. De cette chambre. Vite! Elle va ouvrir la porte-fenêtre de la chambre. Il fait nuit. Mais lorsqu'elle s'est couchée, le jour était presque là. Mais là, il fait nuit noire. Elle prend le corps comme elle peut, le soulève et le jette par la fenêtre. Il tombe en faisant un grand bruit. Dans le jardin. Mais personne n'a rien dû entendre. Décidément, tout se passe comme dans un rêve. Vite! Elle sort de sa chambre pour descendre au jardin. La nuit. Tout est noir. On dirait même que la maison est abandonnée. Elle retourne au jardin le corps. Vite. Il faut qu'elle cache le corps. Elle traîne par les pieds. Et tourne la maison. Là, sur un côté de la maison, il y a une porte où on descend 3 marches. C'est ce qu'elle fait. La porte n'est jamais fermée. C'est une espèce de débarras corbe où l'on dépose des tas de choses qui traînent, comme dans un circuit. Des outils, des chaises cassées, etc. Elle entre dans cette espèce de corbe. Elle est épuisée. Regarde autour d'elle. Voit table, l'armoire, mais tout est plein. Voit au fond de la corbe un puits. Où on a mis des planches pour boucher. Vite, elle retire les planches. Et pousse le corps au fond du puits. Ça fait un grand plouf. Elle est en sueur. Et a peur. Se demande comment on a fait pour pas entendre tout ce bruit. Puis, elle bouche le trou avec les planches et retourne à sa chambre. Là, elle nettoie le sol avec une serviette qu'elle a prise dans la salle de bain, met des draps propres, se lave, change de chemise de nuit et s'endort. Elle a fait tout ça sans émotion comme ça, avec des gestes très précis, mais comme dans un rêve. Était-ce un rêve ? Elle se réveille, il fait grand jour, tout semble normal. Elle se souvient d'avoir fait tout ça. On a frappé à la porte.
Oui.
Madame, il faut vous lever, il est 9h30 déjà.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.